Now, I'm as liberal as the next guy.
If the next guy is a redneck.
But I gotta say, I think there's something to this cold climate business. I mean, you go to the beach, what do? Drink a few beers, wait for that fish to flop up on the sand. Can't build no civilization that way. But you got a cold winter coming on, you got to plan ahead. And that gives your old cerebral cortex a workout.
Well, it's a good thing you're born down here then.
You joke about it, Sam. But we are in a state of crisis. The lines of demarcation are getting fuzzy. To run a successful civilization, you have got to have your lines of demarcation between right and wrong, between this and that. Your daddy understood that. He was a, what do you call it? The referee, that damn menudo we got down here. He understood how most folks don't want their salt and sugar in the same jar.
Boy, you mix drinks as bad as you mix metaphors, you'd be out of a job.
You're the last white sheriff this town's gonna see. Hollis retires next year. Jorge Guerra's gonna take over. This is it, right here, Sam. This bar is the last stand. Say habla American, goddammit.
Daddy.
Hi.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
T'inquiète, c'est de la merde, ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important?
C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horaire d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers 10:30. Pourtant, moi, j'étais fatigué.
J'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Mon Dieu, bordel de merde! Oh, tu m'en tailles! Tu m'en fous! Oh, je suis fou! Oh, trop de bien! Oh, ton cul! C'est mon génie!
Tide. Is it with you? Are you plowing into it? Is it slack? Where's the moon in its cycle? There's wind, which can jump around on you when you're ducking in out of these islands. There's the size of the channel you're going through, configuration of the bottom.
You still know all this stuff?
Yeah, as much as you can know it.
This isn't what I expected.
What did you expect?
Well, I don't know. Some guys, they live alone. It can get,
Well, I had the health department over this morning. They sprayed the walls down.
You listen to a lot of different stuff.
Yeah.
That's good. You see a whole wall of the, butthole surfers. And you read books.
Yeah.
So you're either a nice, quiet guy who lives alone, or you're a serial killer. I mean, my track record for consciously choosing men is so horrendous that if I ever hooked up with somebody good, it would be pure luck. I'm being careful, okay?
Okay. Me too.
Okay.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission la plus à gauche de Canal B, avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin.
Salut les kids.
Qui nous accueille dans les nouveaux studios bis de Canal B pour une émission un peu particulière, puisqu'elle va aborder un cinéaste, le cinéaste peut-être le plus secret des États-Unis aujourd'hui, malheureusement, à savoir John Sayles, que on attendait en fait quelques mois, voire quelques années, pour en parler. Ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait en causer. Ça date peut-être justement de la rétrospective à la Cinémathèque française qui avait eu lieu, c'était autour de 2020, 2021, un truc comme ça, pour revenir sur ce cinéaste qui, alors on va faire ça très rapidement, mais qui aujourd'hui en France n'a pas grande visibilité, justement, mis à part cette rétrospective. Et puis, l'occasion aujourd'hui, c'est un peu l'excuse qu'on attendait d'une ressortie en Blu-ray enfin en France de l'un de ses films, à savoir aujourd'hui Matt et Juan, c'est chez Intersection, qui en plus de ça, je le dis tout de suite avant qu'on oublie de le faire, a fait un très très beau travail éditorial en fait autour de ce film qui date des années 80, l'un des meilleurs films en plus du bonhomme, donc ça fait plaisir. On y reviendra dans une deuxième partie de cette émission, mais c'est vrai que le fait qu'enfin Intersection, quelqu'un en tout cas en France d'ailleurs, se permette de rééditer un de ces films nous a donné l'excuse en effet pour faire cette émission découverte, hein, puisque nous sommes nous-mêmes encore en train de voir ces films. Il nous en manque encore quelques-uns, mis à part Matt et Juan, justement en France aujourd'hui pour voir ces films c'est assez compliqué. Il y a quelques éditions DVD qui traînent, hein, je pense à Limbo, donc des films qui datent des années 90, hein, Limbo, Lone Star, on peut retrouver des DVD, Brother from Another Planet qui avait été édité chez, j'ai oublié le nom d'éditeur, malheureusement, je m'en excuse, c'était il y a une dizaine d'années aussi qu'il était sorti. Mais sur une vingtaine de films depuis les années 80, depuis 80 jusqu'à 2013, si je ne dis pas de bêtises, pour son dernier long métrage, il y a très peu de choses qui sont sorties en France. Et mis à part cette rétrospective à la Cinémathèque française il y a quelques années, malheureusement, c'est assez compliqué de voir ces films. Donc on attend avec impatience l'occasion de revenir dans une prochaine émission sur l'un de ces films. Aujourd'hui, c'est l'occasion malgré tout pour nous, enfin, de vous présenter le personnage qu'on avait découvert de différentes manières. Moi, je sais, je laisserai peut-être Antonin en parler après, hein, que dans les années 90, il a eu le droit, en effet, à une petite reconnaissance. C'était notamment au départ à l'occasion de Lone Star. Ça doit être 95, hein, si je ne dis pas de bêtises, Lone Star.
Il me semble, oui.
Film avec Matthew McConaughey, Chris Christopherson, Chris Cooper. Des noms aujourd'hui qui sont un peu reconnus, à l'époque peut-être pas autant, qui a le droit à l'époque justement à la une de première par exemple, la diffusion sur Canal en prime time, enfin c'est le film un peu événement. Moi c'est comme ça que je le découvre en tout cas. Lone Star, je dois l'avouer, qui à l'époque me branche pas particulièrement. Par contre, quelques années plus tard, sur Arte, et je me permets du coup de lancer l'émission un petit peu sur cette découverte, je découvre en ratant le début Limbo, avec pour le coup beaucoup moins d'acteurs connus, même si il y a, alors j'arrive jamais à dire son nom, à Marie-Elisabeth
Mastrodonio.
Merci Antonin, que l'on connaît pour notamment son rôle dans Abyss, qui est exceptionnel, hein, dans Abyss, et qui est exceptionnel aussi dans Limbo. Et puis David Stratterm, donc l'acteur fétiche de John Sayles, qui joue dans, je pense, 90% de ses films.
Ah, j'ai l'impression, ouais.
Et
Limbo, au moins 50%, on va dire.
Et Limbo, je découvre sur Arte sans avoir vu le début. Je suis entré dans le machin sans savoir où je fous les pieds. Et au fur et à mesure, je rentre dans un univers complètement fou, en fait. Et puis, une deuxième partie de film qui me laisse pantois, vraiment. Et puis, un final qui me laisse sur le cul complètement. Et j'ai attendu très longtemps avant de pouvoir revoir ce film dans de bonnes conditions. Et c'est toujours un plaisir. Et c'est vrai que là, d'un coup, de se dire qu'on a enfin l'excuse de faire une émission sur le bonhomme, malgré, en effet, le peu de...
Bah, on a galéré pour trouver les films. Hein. Moi, ça fait...
Il y a ça déjà. C'est-à-dire qu'en effet, pour faire cette émission, on voulait voir les films, il faut les trouver. Mm. C'est pas évident. Mais on avait l'excuse. Déjà, c'était ça, en fait. On avait
bien sûr.
Donc, on a fouillé
un petit peu.
C'est un vrai... On les a pas vus dans de bonnes conditions, en tout cas. Hein.
Pas totalement dans de bonnes conditions, mais en tout cas, moi, ça a été vraiment un très, très gros plaisir. Parce que moi, c'est un nom qui traîne vraiment, qui est en périphérie de l'histoire de ma cinéphilie depuis très longtemps. Effectivement, t'as
évoqué depuis.
Lone Star, évidemment, moi Lone Star, ça a été un film qui a été assez important parce que c'était vraiment le film, quand tu lisais que première, bah, tu avais ce film-là qui sortait de nulle part, qui était en film du mois, qui ne passait probablement pas là où j'habitais à l'époque quand j'avais 15 ans et que j'ai découvert plus tard et que j'avais beaucoup aimé, mais que j'ai jamais revu après pendant 10 ans, et que jusqu'au moment où je l'ai revu, je me disais, ah, en fait, c'est vraiment bien, et où je me suis suis rendu compte que bah, y avait pas mal de gens qui l'adoraient, non, et un célèbre cinéaste suisse qui, à un moment, lors d'un questionnaire un peu à la con, un questionnaire de Proust à une émission de radio où on lui posait la question, entre 50 questions, genre votre plan préféré, il y avait la question la pépite que personne ne connaît. On a Jean-Luc Godard qui dit Lone Star, qui est sûrement un des plus beaux films américains sortis en 50 ans. Et là, je me dis, ah oui, d'accord, en fait, je ne suis pas le seul à avoir été marqué par ce truc,
toi,
avoir
Godard,
adoré ça. Carrément. Et c'est surtout,
ouais,
en fait, ça, en tout cas, ça ennoblissait quelque chose où je me disais, bon, voilà, c'est vraiment une seule œuvre.
Je suis pas con, quoi.
Déjà, je suis pas con. Puis, en fait, c'est le seul truc, c'est pas. Surtout, ça m'a donné envie de me dire, mais en fait, d'accord, mais c'est qui ce John Sayles? Mais ce John Sayles, je le connaissais aussi parce que c'est aussi quelqu'un qui vient d'une génération aussi un peu particulière, qui est de la même génération que James Cameron, que Joe Dante et compagnie. C'est des gens qui ont commencé dans un contexte qui, pour le coup, appartiennent à ma cinéphilie, qui est une cinéphilie, pour le coup, très balisée. C'est le scénariste de Joe Dante, c'est le scénariste de Piranha, c'est le scénariste de Hurlement, c'est le scénariste de Battle Beyond the Star. C'est quelqu'un qui a œuvré pour l'écurie Roger Corman, qui a été scénariste.
Alors, qu'il a été romancier d'abord. Enfin, il a fait du théâtre. Il a été romancier. À partir de là, il se fait engager justement par Corman, qui se dit, tiens, là, ce type sait raconter des histoires. Hop, je l'engage. Il fait des scénarios pour Corman, en effet. Donc, ça va être Piranha, notamment, de Joe Dante. Il va faire du Rouge pour le Truand.
Pour Léo Westing. Alors, on en avait parlé lors d'une de nos dernières émissions. Il a fait deux films pour Léo Westing.
Hein.
Ouais, L'incroyable Alligator, avec un scénario qui est très bien, et notamment sur un truc sur lequel on reviendra peut-être, mais d'un coup, quand tu regardes L'incroyable Alligator, alors moi je ne l'ai pas découvert adolescent, mais pour l'avoir découvert, je m'étais dit, mais c'est fou, la relation amoureuse entre les deux personnages est extrêmement bien écrite, et tu n'as jamais vu ça dans le cinéma américain. On dirait que c'est des adultes qui ont une histoire d'amour ensemble, quoi. C'est pas des adolescents, c'est pas leur premier amour et tout ça. Donc tu dis, c'est fou. Et ce scénario incroyable pour ce film de Léo Westing, Du Rouge pour un Truand, qui a eu une petite publicité dernièrement parce que Tarantino avait écrit un texte en disant que c'était le plus grand scénario jamais écrit pour un film d'exploitation. On en avait parlé de ça. Voilà. Mais John Sayles, c'était un peu ça. Voilà. Moi, jusqu'à Lone Star, Lone Star, il y a eu ça. Et je sais que pour moi, un autre truc un peu dans mon appréciation du bonhomme, ou en tout cas dans ma rencontre avec le bonhomme qui a été assez important, c'est le confinement avec cet épisode de La Loupe. On est plusieurs à avoir connu quand même, où d'un coup il y a un film qui a émergé de La Loupe, c'est le film Liana, qui est le deuxième film de John Sayles, le deuxième long métrage qui date du tout début des années 80, et où d'un coup ça sort sur La Loupe, qui était donc cette plateforme sur Facebook où on ressortait des raretés absolument inconnues, où d'un coup tu dis voilà, il y a une histoire d'amour entre une jeune universitaire qui a une histoire avec son mari un peu compliqué, avec son mec un peu compliqué, qui a une histoire homosexuelle avec une nana, et voilà, c'est un film magnifique. Effectivement, tu regardes le film, tu dis mais comment je n'ai pu jamais entendre parler de ce truc là surtout en 2020, où déjà les questionnements sur les représentations des minorités, des minorités, en tout cas des gens bizarres, genre les noirs, les lesbiennes, les PD, tout ça, quoi.
Les gens qui sont pas comme
tous les gens qui sont pas comme des mâles hétérosexuels blancs 40 ans et de la classe dominante. Voilà. Comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ça? Là, tu dis, il y a quand même un problème. Donc, ça m'avait déjà donné envie, en tout cas, de me dire, il faut vraiment se pencher sur le cas de ce bonhomme, parce que le film, il est sublime. Il est vraiment hyper émouvant, d'une justesse absolue. Tu dis, il y a un truc à faire là-dessus, quoi.
Et j'allais dire, à côté de ça, John Sayles, il est aussi connu en sous-main pour avoir été pendant très longtemps, et vraiment très longtemps, jusque dans les années 2000, 2010 même, le script doctor en fait d'Hollywood en fait.
Un des script doctors, assez important.
Voilà, un très important. C'est lui qui aurait écrit la première version de E.T. de Spielberg. C'est lui qui aurait écrit aussi quasiment le scénario d'Apollo 13 de Ron Howard. Il travaille sur des projets très différents, que ça soit il vient des Curry Corman, donc sur des projets un peu indépendants, et puis en même temps sur vraiment les plus gros blockbusters en fait qui soient possibles dans les années 80 et 90.
Et ce qui est marrant, c'est que lui, il disait souvent, moi, de toute façon, écrire pour Hollywood, moi, ça me demande aucun effort. J'écris très facilement pour ça. Mais je sais que ce que j'écris, ça ne m'intéresse pas. Mais tout ce que je fais qui ne m'intéresse pas me prend très peu de temps, et je sais que je le fais très bien.
Mais c'est comme ça aussi qu'il finance ses films, en fait. C'est-à-dire que Il va très tôt, donc en 80, en fait, réaliser son premier film pour 30 000 $. Donc vraiment, c'est que dalle, hein, 30 000 $, je ne sais pas si les gens se rendent compte. Donc ça sera The Return of the Secaucus 7. Malheureusement, il n'y a aucun titre pour traduire ça. Hein, puis c'est le nom.
Je crois que ce n'est pas sorti en France. Hein.
Un groupe, ce n'est pas sorti en France et c'est mal barré pour qu'un jour on le voit. Parce qu'en termes de restauration, même si lui, a priori, il a récupéré les droits pour ses films, justement, parce qu'il a créé sa propre entreprise, sa propre association, en tout cas, c'est l'Anarchiste Convention. Donc ça donne un peu le ton quand même aussi de son projet, hein. Mais là c'est, et puis ça lance, alors on va y revenir très bien, mais je veux finir. Le type donc est script doctor, il travaille beaucoup sur l'écriture, il n'y a aucun problème, comme tu le disais, ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qui l'intéresse lui justement? Et c'est pour ça qu'à un moment il se lance dans la mise en scène sans savoir du tout comment faire ça, en fait. Il a, en effet, il est romancier, il travaille sur des scénarios, mais la mise en scène, pof, il a pas trop fait le truc. Donc son premier long métrage, Return of Secaucus 7, en effet, c'est un peu il est pas encore au fait de comment est-ce qu'il veut mettre en scène son histoire, mais il sait qu'il a envie de raconter autre chose. Et l'objet est fascinant à plein de niveaux, en fait. Déjà parce qu'en effet, ça pue la générosité, parce que ça va lancer aussi une mode. Moi, quand je l'ai découvert dernièrement, en fait, et c'est vrai qu'on avait fait une émission il y a quelques années sur les films de copains. On n'avait pas parlé de ce truc-là parce qu'on l'avait pas vu. Si on l'avait vu, ça aurait foutu en l'air tout ce qu'on aurait pu raconter, en fait, dans cette émission. Puisque moi, par exemple, mon film préféré de film de copains, c'était peut-être The Big Chill de Laurence Kasdan, que j'aime toujours. J'adore ce film. Sauf que, en fait, en voyant Return of Secaucus 7, je me rends compte que bah, c'est un plagiat.
Après, c'était avoué, plus ou moins.
Je sais, mais c'est troublant. Enfin, il recopie tout ce que John Sayles a pu faire, en fait, quoi. Donc, des gens qui, des copains qui se trouvent après des années d'absence et puis qui vont, en effet, remettre à plat, en fait, un petit peu leur conviction et ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Donc c'est un film très généreux dans lequel on a envie de vivre. Enfin, c'est une bande de copains, très vite on se sent invité auprès d'eux, en fait. Et alors il y a plein de choses qui déjà annoncent ce qu'il fera plus tard. C'est-à-dire qu'il crée une famille, il crée une façon de faire le film troublante. Enfin, c'est vraiment, le film raconte la façon dont il est fait aussi. C'est-à-dire que justement on va créer une famille pour raconter une histoire, on raconte aussi l'Amérique. C'est ça son grand projet, c'est justement de revenir sur... on a vécu via le cinéma, en fait, énormément de l'histoire de l'Amérique, de l'histoire de voilà, même l'histoire en général. Sauf que c'est pas ça, en fait, qui se passe. Et du coup, il faut raconter, en fait, vraiment ce qui se passe, mais sans faire... sans rentrer dans un didactisme trop appuyé, sans je sais pas très bien, mais sans faire justement un cinéma. Alors il va être à la fois vraiment militant, entre guillemets, c'est-à-dire que en effet on peut pas dire que il est de gauche, voilà, c'est tout. Enfin, il est vraiment.
Ouais.
Mais il va pas nous asséner un message, en fait.
Ah oui, bien sûr. Après, il y a, en fait, de toute façon, chez lui, il y a un sens de l'histoire. Après, je pense qu'on pourra revenir là-dessus un petit peu plus précisément. Mais en tout cas, chez lui, c'est assez frappant à quel point il va s'intéresser à chaque fois à une sorte à la société dans son ensemble. Effectivement, il va toujours partir du plus petit. De la plus petite molécule, c'est-à-dire l'individu, mais il va les mettre ensemble, et en général c'est toujours des portraits de groupe, et à chaque fois ces individus-là, il ne va jamais perdre de vue en tant que cinéaste que c'est des individus qui sont pris dans un système beaucoup plus ample, qui a une société avec des structures de domination et des structures sociales extrêmement marquées, et qui fait que c'est un des rares cinéastes qui est profondément marxiste du cinéma américain. Moi, c'est un truc qui est vraiment très frappant là-dedans, ce que tu dis, c'est dans tous ces films, c'est que tu dis, bah oui, c'est incroyable à quel point il arrive à étudier vraiment ça, mais beaucoup plus que d'autres cinéastes que je valorise beaucoup, hein, comme Lumet ou d'autres. Mais tu dis, lui, il a vraiment une faculté de voir tout ça, d'arriver à les saisir, mais tout en ne perdant jamais vue l'humain. Et c'est pour ça que ça me rend d'autant plus incompréhensible le fait que ce cinéaste-là n'ait jamais soit aussi peu connu en France, parce qu'on sait très bien qu'une des doxa, on sait que la classe culturelle dominante en France, elle a longtemps été occupée par la gauche, est en train de changer malheureusement, mais voilà, mais on sait que voilà, on a le couplet le cinéma de gauche et contestataire qui se niche dans le système hollywoodien, ça a été souvent un couplet assez valorisé par la critique française, par la cinéphilie et tout ça, voilà, les Fuller, même les, justement, les Curry Corman, Joe Dante et compagnie, voilà, c'était vraiment les petites poussières dans un système industriel, c'est celui qui était les gauchistes là-dedans, même Carpenter, on a voulu le faire passer pour un gauchiste, donc ça a été le couplet. Alors comment ça se fait que John Sayles n'a pas eu ça, alors que on se dit mais oui, c'est incroyable, il a une hauteur de vue de pensée analytique sur la société, on y reviendra, mais c'est clairement l'inventeur d'une sorte de forme de cinéma et de regard narratif sur le monde qui a donné après The Wire de David Simon, ça c'est clair et net, c'est l'inventeur de ça, et je pense que sans être tombé sur d'interview où David Simon l'avoue, quand on voit un film comme City of Hope, bah, quand on voit qu'il y a une partie du casting de The Wire qui se retrouve là-dedans, que ça pareil, un film qui va prendre la presse, le monde politique, les prolos, les riches. Voilà, on se dit, bah oui, c'est The Wire, quoi. Donc, il y a ce truc-là chez lui. Alors, comment ça se fait que ce type-là n'est pas plus connu en France? Je ne sais pas.
Et puis, pour ajouter à ça, c'est-à-dire que là, tu évoques plus le cinéma des années 80. Moi, j'ai repensé à ça aussi par rapport au cinéma des années 90. Donc, en effet, à l'époque de Lone Star, par exemple, c'est 95, si je ne dis pas de bêtises.
96, ouais.
96, voilà. Limbo, c'est pareil, c'est pas longtemps plus tard, c'est avant 2000, c'est 99 peut-être. On a affaire à un cinéaste de gauche qui, en effet, parvient à avoir une notoriété. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien, à la mode, qu'est-ce qu'on a plutôt en cinéaste de gauche américain, qui va d'ailleurs avoir une palme d'or à Cannes, c'est plutôt des gens comme Michael Moore, en fait. Michael Moore, les gens l'ont oublié aujourd'hui. En tout cas, j'entends personne évoquer Michael Moore aujourd'hui.
Heureusement.
En fait, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que c'était de la merde. Mais je rappelle que Michael Moore, c'était quelqu'un qui ne faisait aucune recherche et qui cherchait avant tout à se mettre en avant et qui a malgré tout réussi à avoir une palme d'or grâce à ça, en fait. Ce qui était bon, enfin moi, ça me faisait vraiment de la peine de voir Michael Moore mis en avant comme ça. Alors qu'au même moment, en effet, on avait un cinéaste comme John Sayles, qui lui, pour le coup, fait vraiment des recherches. C'est-à-dire que on va l'évoquer pour Matthew Wan juste après une pause, mais il s'intéresse vraiment aux gens, il laisse constamment la parole aux gens et il écoute constamment. C'est même inquiétant à quel point l'homme est à l'écoute de
ouais,
l'autre.
C'est un peu ça. En fait, il y a deux positions de cinéaste qui, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que Michael Moore, on sent très bien qu'il arrive avec un scénario préétabli il arrive non pas avec un scénario préétabli, mais une idée préétablie sur le message qu'il veut faire passer. Autant chez John Sayles, constamment, c'est un petit peu son côté lumette, c'est qu'on sent que lui, il est attentif à l'énigme du monde, c'est qu'il sent qu'il a des convictions, mais il arrive dans le milieu, il s'intéresse à un milieu à chaque fois très spécifique, hein, on y reviendra peut-être aussi, mais c'est quelqu'un qui a filmé je sais pas combien de régions des États-Unis. Tu peux
explorer
si tu
américain.
Passes un mois comme moi à regarder tous les films de John Sayles, t'as visité tous les États-Unis en gros, quoi, en tout cas au moins 30%, ce qui est déjà pas mal. Et en tout cas, lui, il a son idée là-dessus, il sait de ce dont il veut parler, mais voilà, il se dit quel personnage existe là-dedans, et puis lui, il se dit mais quelles sont les motivations de mon personnage, et il va les faire s'entrechoquer, et à chaque fois, eh ben on va pas dire que l'énigme du monde restera entière, parce qu'il y aura toujours lui ce qu'il pense, que voilà, ce qu'il faudrait faire, ou
il
je sais pas quoi,
pas
mais en tout cas,
non plus,
il assène pas un message, mais par contre, il y a ce côté un petit peu anthropologue je mets ces personnages là et je vois où ces personnages me mènent parce que eux ils ont leur propre motivation.
Et puis alors, on va faire une pause avant d'évoquer justement l'un de ces grands films. Moi j'ai prévu s'il faut un moment un top 5, un top 7 de John Sayles pour ceux qui veulent démarrer en fait justement à découvrir le cinéaste. On fera peut-être ça juste après la pause que je tiens à présenter quand même parce qu'on va écouter des extraits de ces films, on va écouter un morceau aussi un peu particulier. Si je le présente pas, je pense que les gens vont pas reconnaître forcément le chanteur alors qu'il est extrêmement connu, c'est Bruce Springsteen et qui dans les années 80 en fait sa musique n'était pas exploitée dans l'histoire du cinéma en fait. Il a fallu attendre
Sean Penn.
Non, bah justement c'est après Bogdanovich aussi l'a fait après mais très tôt en fait avec Baby It's You que je n'ai pas vu d'ailleurs. Mais justement John Sayles, il avait envie de la musique de Bruce Springsteen qui justement évoque les ouvriers dans sa musique, en fait, qui évoque il est vraiment du côté des blue collar, des ouvriers dans sa musique Bruce Springsteen, et John Sage voulait cette musique là. Il savait que la musique Springsteen n'était pas fan qu'on utilise sa musique juste pour rythmer un film, et du coup jusqu'ici c'est pas utilisé. Il a fait le montage avec la musique de Springsteen et il l'a envoyé au peut-être à son producteur ou une connerie du genre, quoi. Springsteen a dit ouais, ok, c'est bon. Et là on va écouter le morceau que Springsteen a fait pour Limbo, et ça s'est passé, enfin l'histoire est, enfin moi je trouve ça très chouette parce que ça représente pas mal la façon dont il peut travailler aussi, c'est-à-dire qu'ils se sont croisés rapidement, je crois que c'était dans un aéroport, et Sales dit à Springsteen, bah voilà, je prévois un film, voilà de quoi ça parle. Ah ouais, je pourrais faire un truc pour ça. Ouais, trop bien. Ah ouais, super. Bah, je te fais un morceau pour toi. Ça va être super. Et voilà. Il fait un morceau pour John Sales. Et en plus, il le fait de façon très particulière. Très honnêtement, la première fois que j'ai entendu le morceau, je savais pas que c'était Bruce Springsteen. J'aurais pas lu le générique jusqu'au bout. J'aurais pas su que c'était lui. Ça m'a vraiment. Alors que c'est sur des best-of en plus. Bon, je suis pas à fond sur les best-of de Springsteen, peut-être, mais j'écoute ses albums, c'est bien. Donc on va écouter ça et puis on reviendra sur deux trois films en particulier du bonhomme juste après.
Yeah, I'm afraid that most Americans think that American history is what they've seen in the movies.
Je crains que la plupart des réalisateurs américains ne pensent que l'histoire des États-Unis soit celle qu'ils ont vue sur les grands écrans.
And because it's a popular medium, that's those films are made to celebrate America and make the audience feel good about themselves.
Et comme c'est un médium très populaire, finalement, ces films, ils sont faits pour célébrer l'Amérique et pour que tout le monde, finalement, soit content de ce qu'il voit à l'écran.
And as I've learned more American history, I come across these things like the story in Amigo of the Philippine-American War or the Matewan Massacre in Matewan.
Et quand moi j'étudie l'histoire américaine et quand je tombe sur les faits historiques qui ont inspiré Amigo, sur les faits historiques qui ont inspiré Matewan.
And you wonder how come I don't know this history, but even how come the people who live in that town no longer know it.
Et je peux me demander, mais comment ça se fait que moi j'ai pas été au courant de ces faits historiques, mais aussi comment ça se fait que les gens qui habitent le coin ne sont pas au courant non plus.
And this is because that history wasn't forgotten, it was buried on purpose.
Et ça, c'est pas parce que l'histoire a été oubliée, c'est parce qu'elle a été enterrée. Elle a été enterrée exprès.
I don't need your answered prayers or the chains your lover wears. I don't need your rings of gold or the secrets that you hold. Lift me up, darling, lift me up. Ooh.
sulla nave come fossimo bestie. Veniamo fin qui dove di notte ci sparano addosso. Per chi cosa poi? Fale la fame come Milano. Dove sei stato? Dite la data.
Lady? Since there's just me and Hillard, and you got all these little ones, well, you know what to do with this? Hillard brung it in.
Cornelio?
It's for you.
Da noi?
I ain't gonna watch no babies go hungry. Here, you go on. You take it. Here's some navy beans. And these here is ramps. Now you can cook with these. They'll put a taste in your stew.
Aglio.
Anyhow.
Vuole sedersi con noi?
Well, I figure we's all in this together. We sure got some pretty babies.
Donc à l'instant, on a pu entendre un extrait de quoi d'ailleurs à l'instant en
fait. Un extrait de Matewan.
De Matewan, bah justement, Matewan, dont on va causer tout de suite, puisque justement, Matewan, lui, il a l'honneur d'être enfin édité en Blu-ray en France via Intersection, dans un film qui avait été restauré déjà par Criterion, tout comme Lone Star, qui là a le droit à des bonus vraiment faits par Intersection qui sont super.
Je conseille l'interview de John Sayles, grosse
interview, voilà. Grosse interview de John Sayles, ça dure 1h30 je crois, qui est vraiment super, de sa femme qui est aussi sa productrice et qui joue dans ses films, hein, Maggie Renzi, qui est super.
Il y a Muriel Joudet
aussi qui revient un petit peu, donc voilà. On va pas revenir justement sur tout ce qui peut être raconté dans les bonus. Je conseille vraiment d'aller acquérir vraiment cet objet parce que justement il y a un vrai travail éditorial qui va avec et c'est la première fois en France un petit peu qu'on a ce travail éditorial sur John Sayles pour un objet Blu-ray. Et Matewan, qui est donc le cinquième long métrage de John Sayles, donc c'est 87, 88, je dis pas de conneries.
Quelque chose comme ça.
Un truc dans le genre en tout cas, où il vraiment, après avoir fait donc 3-4 longs métrages, il a appris le métier tout seul entre guillemets, enfin vraiment c'est le bonhomme donc qui écrit, qui produit, qui réalise, qui monte ses films, puisque il est vraiment monteur. Il explique qu'en tant qu'écrivain, il avait appris le métier de monteur, à savoir de couper des morceaux, hein. Il y a je crois que c'est le début de Liana, son deuxième long métrage, où justement il y a un cours de cinéma, enfin d'écriture en tout cas, où justement, l'une des premières séquences, c'est le prof qui montre comment on peut transformer un texte pour en faire un montage différent. Enfin voilà, il maîtrise le montage, ce qui le sert beaucoup sur ses tournages, puisque ça reste un cinéma très indépendant, pauvre, avec peu de moyens, et que sa mise en scène s'adapte vraiment aux moyens qu'il a en fait. C'est fascinant d'écouter un commentaire audio, je pense à Limbo, puisqu'on a le droit en France d'avoir un DVD de Limbo avec un commentaire audio, où il explique comment justement sa mise en scène s'adapte à la fois aux acteurs, évidemment au temps, au climat, et puis au budget. Comment est-ce qu'il va décider de mettre sa caméra à tel ou tel endroit par rapport à ce qu'il a envie de montrer, de raconter dans son histoire. Il y a un vrai travail de mise en scène associé bien évidemment à un budget qui est très limité, malgré le fait qu'il aille faire des films. Alors c'est pas du Werner Herzog, hein. Il fait pas des films d'aventure extrême, mais il va tourner malgré tout parfois dans des environnements qui sont vraiment plus que compliqués. Limbo par exemple, c'est en Alaska, c'est pas évident de tourner là-bas. Matewan par exemple, c'était aussi un film assez compliqué à tourner, puisqu'il se trouvait dans une cuvette, dans le trou du cul des États-Unis, vraiment.
Là où très peu de films sont tournés. On apprend ça au fil des bonus, en disant la Virginie, c'est pas documenté cinématographiquement.
Personne ne fout les pieds là-bas, grosso modo. Personne ne fout les pieds là-bas en fait. Quoi. Et lui, alors je laisse les gens vraiment et revenir sur les bonus hein, pour l'histoire, mais grosso modo, voilà, il a découvert que dans les années 20, il y avait eu un gros conflit social sur les mines de charbon dans un petit bled de Virginie occidentale qui avait fini par une tuerie quand même, et il se dit mais il faut en faire un film. Il va galérer pendant plusieurs années pour trouver des financements, pour avoir les moyens de le faire. Entre temps, il fera un film de science-fiction d'ailleurs, Brother from Another Planet, qui se tournera à New York, à Harlem même. Voilà, il fait un film à Harlem. Et puis, il va finir par faire ce Matewan qui restera l'un de ses plus grands films grâce aussi, parce qu'il se fait accompagner régulièrement quand même par de très grands chefs opérateurs. Là, par exemple, sur ce film-là, c'est Haskell Wexler, qui est aussi réalisateur, qui fait des documentaires, qui a bossé beaucoup dans les années 70 aux États-Unis pour Jewison ou d'autres, en fait. Hein, il a vraiment une belle filmographie, Wexler. Et c'est un type de gauche, évidemment, puisqu'il va bosser en plus avec John Sayles. Et on sait que les types qui bossent avec lui. Mais il bossera aussi avec Caleb Deschanel, par exemple, qui sera, par exemple, responsable de la photographie de la Passion du Christ. Ah, le pof, j'ai trouvé un lien entre John Sayles et Mel Gibson. J'attends les applaudissements.
Ça veut dire que Mel Gibson est de gauche.
Mel Gibson est de gauche parce qu'il a travaillé avec quelqu'un qui a travaillé avec John Sayles. Non, mais ce que je veux dire, il travaille avec quelqu'un qui est prêt. Et ça, c'est pour quiconque a bossé sur un tournage, c'est fascinant. Si tu lui dis, là, on a 20 minutes pour tourner ce plan, je suis désolé, fais du mieux que tu peux. Et le type fait, d'accord, je vais faire du mieux que je peux. Et en fait, c'est exceptionnel d'avoir un chef-op qui est de renom et qui fait un travail exceptionnel, qui dit, d'accord, je suis prêt à faire ce plan, ouais. En fait, même si j'ai très peu de temps, en fait.
Mais toutes les histoires sur ce tournage sont assez folles parce que c'est un mélange d'un tournage qui est d'extrême préparation, justement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, et d'extrême improvisation, dans le sens où ils se disent, bah ouais, il va falloir qu'on fasse rentrer un maximum de l'environnement dans lequel on filme pour faire rentrer de la vie là-dedans, quoi. Et on sent que voilà, tout est extrêmement préparé, il n'y a pas d'argent, mais en même temps, bah, il y a la population qui vient, qui se met au truc. Donc tu dis, c'est une sorte de mélange d'un film très composé. C'est un film qui est très visuellement vraiment superbe, vraiment il est magnifique, le film, même visuellement plus beau plastiquement, en tout cas, que beaucoup d'autres films de John Sayles, plus composé et tout ça. On sent
sous
influence y a un vrai,
de Cimino un petit peu.
Oui, il y a un truc très déjà années 70, le film date des années 80, mais
La Porte du Paradis. C'est ça. Et en fait, La Porte du Paradis, c'est un des rares films qui est cité explicitement par John Sayles, comme pas comme une influence, mais en tout cas comme un film qui pourrait rentrer dans son univers, en fait.
Bah disons quoi, je pense que c'est pas, on peut pas dire que c'est une influence, que je pense que les films, ils ont été pensés à peu près au même moment, mais par contre oui, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir deux très grands films américains qui ont été pensés au même moment et qui sont été pensés à la toute fin des années 70 et au tout début des années 80, et qui s'intéresse à une thématique qui n'est absolument pas du tout une thématique traitée dans le cinéma américain, qui est la thématique de la lutte des classes, et dans le sens vraiment lutte des classes en termes lutte armée, enfin on va dire vraiment conflit ouvert, c'est-à-dire parce que ça n'existe pas beaucoup. En fait, on avait un petit peu évoqué ça quand on avait causé de Daniel de Ciné-Lumette, en disant que voilà, c'est cette thématique-là est assez peu traitée par le cinéma américain. En tout cas, la lutte le concept de classe est assez exogène au système de pensée du cinéma américain, parce que elle présuppose que voilà, l'individu est beaucoup moins important que le déterminisme social et culturel qui a donné son existence. Alors que John Sayles, lui, il pense absolument l'inverse. Il pense que voilà, l'environnement et conditionne les individus, et non pas les individus conditionnent l'environnement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une des particularités très fortes de John Sayles, qui va courir pendant tout son film, et qui est effectivement très voyante dans John Sayles, mais presque à l'état chimiquement pur. C'est-à-dire, voilà, c'est une lutte syndicale entre voilà, des prolétaires fraîchement immigrés, que ce soit des Italiens, des Noirs, des Wasps, des Afro-Américains, et qui qui vont vraiment devoir se souder en tant que classe économique dominée contre une classe économique dominante. Voilà,
Matewan, ça raconte l'histoire en 1920 de la création d'un syndicat de façon complètement illégale dans ce coin reculé des États-Unis, en fait. Une histoire dont lui n'avait pas entendu parler avant, justement, de faire des repérages pour un autre film ou de faire du stop, et il a entendu quelqu'un. Revoyez les bonus, 1h30, le type est inquiétant tellement il est...
Il est trop gentil,
il pense trop aux autres, en fait, et tu sens, en fait, il t'explique, que ça soit dans son écriture ou pendant le tournage, quand il travaille avec les gens, en fait, où il pense au bien-être de tout le monde, en fait, et il va être à l'écoute de tout le monde, et même que ça soit sur What They Want, je sais plus si c'est sur What They Want ou un autre film, où c'est de la part d'un technicien, un électro, il va entendre une histoire parce qu'il va écouter les gens, en fait, et ça va lui servir après pour une des histoires de Limbo, par exemple. Il va réutiliser tout, et parce qu'il est à l'écoute de tout le monde et puis il est proche de tout le monde. C'en est vraiment inquiétant, à tel point dans son interview, il est... Tu te dis, mais non, c'est pas possible, il est trop intelligent et trop bienveillant, en fait.
C'est surtout que ça a l'air d'être vraiment un type très très bien. Ouais.
Il est jamais naïf, évidemment, puisque justement, il va aller à l'écoute de tout le monde et il se dit que l'histoire, ce qu'on a entendu dans l'extrait où il parlait, on l'a entendu parler avant la musique de Bruce Springsteen, c'était sa masterclass à la Cinémathèque française. Mais c'est quelque chose sur lequel il revient très souvent, c'est qu'il faut être à l'écoute, et c'est l'un des premiers points, en fait, de son cinéma, d'ailleurs, dans Brother from Another Planet. Son héros est muet, il passe son temps à écouter, en fait, et le fait qu'il ne parle pas, justement, tous les gens qu'il croise dans les bars ou ailleurs vont se mettre à raconter toutes leurs histoires, en fait. Et ça, tout son cinéma, j'ai l'impression, en tout cas, vient de là. Il s'agit d'être attentif et d'écouter, en fait, les histoires. Et si t'es capable d'écouter l'histoire de l'autre, en fait, tu vas être capable peut-être de le comprendre et du coup d'avancer, en fait, sans un conflit armé. C'est un pacifiste forcené, il a beaucoup de mal, du coup, à filmer la violence. Dans Matewan, justement, ça va se terminer, c'est un fait historique, par justement un conflit armé. Et quand il va le filmer, ça va être problématique dans le sens où, justement, c'est pas une séquence d'action fun et cool à voir, ça va être chaotique, ça va être vraiment problématique, et puis ça peut pas bien
assez
se
brutal
finir. Assez brutal, mais tout son cinéma n'est pas forcément comme ça, puisque justement il est à l'écoute de l'autre. On a régulièrement des films où il va y avoir, au contraire, en fait, des situations quasiment burlesques ou rigolotes. Enfin, il va y avoir un mélange de genres. L'un des trucs sur lesquels on est parvenu, et dans Matewan, il y a ça aussi, je pense qu'il y a une grosse influence, par exemple, du genre cinématographique dans tout son cinéma. Il écrit aussi bien des scénarios, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il connaît très bien le cinéma américain, il connaît très bien les genres, le western notamment, en fait. Et il va beaucoup utiliser le western dans son cinéma, les duels, l'arrivée d'un personnage.
Oui,
exemple,
je pense.
Mais ça, il en parle.
Il en parle. Hein. Mais je pense qu'il est très cinéphile. Et ça, il n'y a aucun problème. Et moi, ce qui me marque, au contraire, dans tous les films que j'ai pu voir de sa part, c'est l'extraordinaire virginité de son cinéma. C'est-à-dire, c'est pas un cinéma qui est pollué par des images préexistantes. Effectivement, il y a un sujet chez lui qui est préexistant, c'est celui dont il a parlé lors de son intervention à la Cinémathèque, c'est il va falloir raconter les histoires derrière cette grande histoire qu'on nous pollue. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être très prépondérant dans son cinéma. C'est-à-dire, Matewan, c'est tout le projet de ça, c'est prendre une région, oublier tous, et puis on va aller raconter l'histoire de ça. Mais
ça Lone Star, une relecture de ça. Règlement de compte à OK Corral, quand même.
Oui. Mais dans d'autres films, genre Lone Star, ça va être quelle est l'histoire derrière la statue de ce shérif qu'on est en train de dresser dans la ville. Dans Silver City,
John
ça va être quelle est l'histoire derrière ce lac. Qu'est-ce qui se cache derrière ce lac. Dans Sunshine City, ça va être quelle est l'histoire qui va se cacher derrière cet endroit qui est promis à disparaître. Il va y avoir vraiment la volonté de raconter, d'aller chercher les histoires qui se cachent derrière, peut-être le storytelling aussi, que fait
la mythologie américaine.
Mais
cette mythologie américaine qui a été dont le public a été abreuvé, en fait, pendant des années, ça, il en a conscience, mais il fait pas de coup de coude et il fait pas une critique, notamment. Et c'est pour ça que je le compare à John Ford. Sa grosse influence, je pense que c'est L'homme qui tue Liberty Valance. Ou aussi le massacre de Fort Apache. Enfin, il y a quelque chose de ça où il se dit il faut faire la part des choses. Les gens ont envie de voir des histoires, voient des histoires. Il va pas leur offrir l'histoire qu'ils ont envie de voir. Ça, c'est une évidence. Il n'est pas là-dedans. Parce qu'il se renseigne sur l'histoire américaine, parce qu'il est conscient de ça. Et donc, il va raconter l'histoire qu'il a apprise. Matthew Wan a un très bon exemple là-dessus. Lone Star aussi, d'ailleurs. Mais Matthew Wan, qui s'inscrit vraiment dans... Enfin, ça raconte un truc qui a vraiment eu lieu. Donc, on a affaire, en fait, à une reconstitution. On pourrait, en tout cas, se dire, on a affaire à une reconstitution historique.
Tout à fait.
Voilà. Malgré ça, il ne va pas... montrer uniquement les ouvriers comme des anges qui font un combat absolu. On n'est pas dans Fist, par exemple, de Dewey Sun. On n'est pas dans un cinéma militant un petit peu bas de gamme du cinéma américain des années 70. Donc, il y a à faire autre chose. Sa grosse influence, pour moi, ça reste John Ford, à la fois parce que, justement, on peut montrer... qu'une histoire peut avoir, comme le dit Liberty Valance, une influence positive, et on est capable malgré tout de montrer en fait sur quoi elle est basée. Et lui, il va aussi aller plus loin que John Ford, c'est-à-dire qu'il est dans la continuité vraiment, en montrant une histoire oubliée. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans le western, on va pouvoir exploiter les oripeaux du western, on va pouvoir exploiter tous les codes. Et Matthew Wan, c'est exactement ça. On exploite tous les codes avec ce personnage qui débarque comme un shérif. C'est le personnage de Chris Cooper qui débarque comme un shérif. Comme un western, on va utiliser tous les codes du western. Mais en fait, à côté de ça, on va aussi représenter en fait, tout ce que le western n'a pas représenté avant. En fait. Et donc, on va mélanger ces codes avec autre chose. Et on va terminer le film aussi autrement. Pour ne pas justement falsifier en fait cette histoire en fait. Et donc c'est comment exploiter tous les codes, les genres, enfin, des codes du genre vraiment et qu'il maîtrise lui. Et c'est ce qu'il dit, hein. Ils peuvent écrire un scénario de genre très facilement. Et ça il le fait pour ses films à lui. Mais du coup autour de ça en fait il va broder justement tous ces personnages qui ont existé ou non, puisque dans Matthew Wan justement et dans ses autres films, c'est un truc qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va mélanger des personnages qui ont vraiment existé, le shérif de Matthew Wan par exemple, il a vraiment existé, et autour de ça, il va créer d'autres personnages pour justement raconter une autre histoire. Donc il y a vraiment une croyance en la fiction et en les codes du genre, mais c'est juste qu'il les utilise autrement.
Ouais, mais moi, je crois pas trop à ce truc-là. Moi, j'ai pas l'impression que... Je crois pas que ça soit quelqu'un qui réfléchissent comme ça. Absolument pas. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit en tant qu'anthropologue. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui crée, qui a eu l'idée de personnage et qui... et c'est après, c'est les personnages, c'est des character driving, quoi, des scénarios où c'est les personnages qui drivent le scénario. À aucun moment, je pense qu'il y a vraiment une volonté chez lui d'aller détourner des codes de genre. Pas du tout. C'est pour ça, moi, je pense qu'il y a vraiment une virginité dans son cinéma. Ce que tu dis, ben, ouais, c'est comme si le cinéma d'avant n'avait pas existé. Et moi, c'est aussi ce que je retrouve chez des cinéastes, des tas de cinéastes que j'aime bien, mais ça va autant de chez Piala à chez Ford. C'est-à-dire que ouais, tu te dis, bah oui, non, mais le gars, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas vraiment les règles du genre, c'est vraiment ce qui l'intéresse. C'est bah, vraiment les gens. C'est de filmer des personnages les uns après les autres et puis de voir comment tous, ils peuvent former un nous. Et c'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui intéresse John Sayles. C'est ça qui intéressait évidemment John Ford aussi. C'est d'interroger le sens de la communauté dans un territoire américain où on va former d'individualités uniques et tout ça. Comment on peut dire nous ? Il en parle très bien aussi dans je crois que c'est là aussi dans la masterclass de la Cinémathèque où il dit mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui se cache derrière le nous, c'est moi c'est et ma bonus, femme c'est moi ma femme et mes enfants,
il le dit hein, dans il le dit, enfin, en tout les cas, il de Matthew Wan, le groupe à quel moment il s'arrête, est-ce que c'est un groupe ethnique, est-ce que c'est un groupe social, est-ce que c'est... et à quel moment
et tous ces films interrogent ça,
mais en fait ça ce qu'il dit et c'est très très juste ce qu'il raconte. Hein. C'est, ça tient pour le cinéma évidemment, pour ses films, mais c'est pour la vie de tous les jours en fait. C'est-à-dire que le nous, à quel moment ça s'arrête?
Et en fait,
à quel moment t'es prêt toi à te mettre en risque en fait pour quelqu'un d'autre?
Mais après, moi je pense qu'en plus c'est vraiment un questionnement profondément politique et aussi un questionnement profondément esthétique. C'est ça qui est génial chez John Sayles, c'est que la façon dont il a de raconter ses histoires, de les mettre en scène, à aucun moment l'individu n'est extrait de son environnement et de la communauté dans laquelle il est. Mais sauf que la question, c'est est-ce que c'est une communauté? Est-ce que voilà, toutes ces sommes d'individualité forment une communauté ou pas? Donc c'est toutes les petites micro-négociations que tisse le scénario qui font que voilà, ça va faire le film en gros. Quoi. Et je pense que là, c'est vraiment un truc qui est très très fort dans tous ces films. Moi j'aime beaucoup Matewan, je trouve que c'est un film qui en plus, moi ça fait deux ou trois fois que je le regarde et je trouve que c'est un film qui s'enrichit au fur et à mesure
comme
des visionnages.
Comme tous les... Il faut dire, hein,
ouais,
il faut
bien
revoir
sûr.
Ces films.
Bah,
en fait.
Pour moi, en tout cas, moi, il y en a plein que j'ai découvert là, mais je sais que Lone Star, maintenant, je suis à mon quatrième visionnage et à chaque fois que je le vois, je me dis bah, peut-être qu'il pourrait intégrer ma liste de mes films préférés, à tel point que je le trouve à chaque fois encore plus bouleversant. À chaque fois, ça m'émeut. Mais c'est aussi voilà, des films qui sont... voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a un sens de l'histoire très fort, voilà, John Sayles. Il a un sens de l'histoire, non pas de l'histoire du cinéma, mais vraiment de l'histoire générale d'un pays, de l'endroit où ces personnages, ils sont. Il a un sens de l'histoire très fort qui pourrait paraître comme méta aussi, parce que c'est des personnages... Moi, à un moment, en réfléchissant sur son cinéma, je me disais, bah oui, c'est un John Milius de gauche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait que de mettre en scène des personnages qui racontent des histoires. John Milius, il y avait ça, on avait fait une émission sur lui, et John Milius, il y a beaucoup de personnages qui racontent des histoires. C'est chez eux, l'acte de raconter est très très important. Mais chez Milius, le mythe prédomine sur la réalité de façon un peu radicale. C'est parce que voilà, il y a vraiment un côté exaltant, un côté mythologique qui est très valorisé par Milius. Même si c'est plus compliqué que ça, enfin voilà, il y a un truc très très intéressant chez Milius. Mais chez lui, il y a chez John Sayles, bah, l'acte de raconter, bah forcément, il y a un côté un petit peu méta là-dedans. On sent que voilà, les personnages sont là pour raconter leur vie. Donc ça crée du récit dans le récit. Mais ça, c'est assez fascinant à quel point ça rejoint des tas de tout un concept esthétique chez lui. C'est-à-dire que de toute façon, ces personnages chez John Sayles, en fait, quand ils arrivent dans la fiction, on sent que c'est pas, ils ont déjà une vie avant eux. Tout comme John Sayles met sa caméra dans un endroit donné, à un temps donné, l'endroit a déjà une vie avant eux. Il a une histoire, il a vraiment tout le bagage historique est là, mais il arrive à le filmer en creux. John Sayles, il arrive à filmer en creux l'histoire de son pays en filmant son présent, il arrive à filmer en fait le passé de ses personnages en filmant leur actualité. Ça passe effectivement par des actes de bah voilà, les personnages racontent un petit peu ce qui se passe, mais j'ai l'impression que pour vraiment avoir vécu ouais, dans plein de ces films, ça, je me dis mais qu'est-ce qui fait que moi je suis autant bouleversé par tous ces films? Pourquoi je suis bouleversé autant par toutes ces histoires d'amour qui sont naissantes entre tous ces personnages, de gens, en plus des histoires d'amour entre des gens en général assez âgés, c'est pas des histoires d'amour de petits ados, quoi, hein. C'est vraiment des gens qui ont déjà vécu des histoires d'amour, parce que voilà, il y a cette histoire, ce bagage historique existe, et il arrive ça arrive à habiter le plan, quoi. Et je trouve que ça c'est une de ses grandes forces de cinéaste, quoi.
Il est temps malheureusement d'arrêter cette émission. Je rappelle que Matewan est sorti en Blu-ray chez Intersection et que ça vaut vraiment le coup justement pour tous les bonus, le contenu éditorial qu'il y a avec ce Blu-ray Matewan, et c'est le premier qu'on peut avoir en France à ce niveau-là. Donc allez vous jeter dessus. Et puis justement, pour ceux qui écouteraient cette émission en direct, il va y avoir une projection à l'Arvor. Intersection est invitée par rapport à la mini-convention cinéphile qui va avoir lieu.
Qui n'est plus du tout mini, qui est une vraie convention.
C'est une grosse convention cinéphile à l'Arvor. Sur ce dernier week-end d'avril, on est en avril, toujours, 2024, Je suis en train de me paumer dans les dates, j'ai presque ouais, un doute
c'est ça,
sur l'année.
C'est ça, on est en 2024. Là.
Voilà, donc cette première convention cinéphile qui se passe à l'Arvor en tout cas, puisque c'est la troisième, organisée par 97 mm. Merci à eux qui invitent aussi d'ailleurs au passage hein, l'équipe de Capture Mag pour projeter le film de William Friedkin, To Live and Die in LA. Et puis il y a plein d'invités, il y a plein d'éditeurs d'invités. Donc venez donc à cette convention cinéphile à l'Arvor sur ce dernier week-end d'avril 2024. Si vous nous écoutez en direct, vous aurez l'occasion justement de voir Matthew Vaughn sur grand écran. Je pense que ça vaut vraiment le coup.
Ah oui, ça va être super.
On espère pouvoir reparler très prochainement, évidemment, de John Sayles via des prochaines sorties, en sachant en effet que Lone Star, par exemple, a été restauré par les Américains de Criterion. Moi, j'attends en effet de voir cette chose en France. Et puis, dès qu'on aura l'occasion, on reviendra sur ce bonhomme qui est toujours là et qui attend toujours des financements. Hein. C'est ce qu'il expliquait à sa rencontre à la Cinémathèque. Hein. C'est que pourquoi il ne fait pas de film ? C'est parce qu'il ne trouve pas le pognon, en fait. Parce qu'il a foutu tout son pognon dans son dernier et qu'il ne l'a pas récupéré. Mmh. Et donc, il ne peut pas faire de nouveaux films puisque ça reste un cinéma. Est-ce qu'on l'a pas assez dit hein ? C'est un gros cinéaste indépendant.
Ah, c'est presque le seul, le plus gros. Quoi.
Voilà,
plus
c'est
que
le gros cinéaste indépendant.
C'est un truc de fou. Hein.
Mais du niveau de Mel Gibson, je veux dire. Mmh. Parce que Mel Gibson, c'est ce qu'il a fait aussi. Hein. Encore un lien. Hop ! Un lien avec Mel Gibson, des vrais cinéastes indépendants. Merci à vous de nous avoir écoutés, bien évidemment. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet de Canal B en podcast et puis retrouver le lien pour ce podcast sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. On se retrouve très bientôt. Vous pouvez retrouver John Sayles sur grand écran, évidemment, comme je le disais, à l'Arvor pour cette projection. On se retrouve très bientôt. Merci Antonin, merci à vous.
Des bisous.
Ciao.
Hey. When does the picture start? Yeah, for the first time I saw you in school. All those years we were married to other people, I always felt like we were connected.
I remember thinking that you were the one part of my life that Buddy didn't have a piece of.
I can't have any more children. After Amado, I had some complications. I can't get pregnant anymore, if that's what the rule is about. So that's it? You're not gonna want to be with me anymore?
If I met you for the first time today, I'd still want to be with you.
Start from scratch?
Yeah.
All that other stuff and all that history. The hell with it, right? Forget the Alamo.